soit démasqué, jugé.
Boulevard.
Bon début de journée, bon vendredi. J'espère que ça va bien sous la pluie. On fait avec ce qu'on a. Peut-être que ça va... Ça sera quelque chose qui va vous calmer un peu. Hein. Ça fait du bien. Des fois, là, la semaine a été tellement ensoleillée qu'on avait le goût de faire mille et une activités. On est sortis dehors, on a profité. Un petit vendredi de répit, ça fait du bien. J'espère que votre matinée s'est bien passée. J'ai l'impression que... Tu sais, il y a des matins où tout roule, croche. Moi, c'est le mien. Vous? Comment ça se passe? 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Sur Twitch, oui. J'ai de la misère à retrouver ma voix, là. Je ne sais pas à quel moment je vais la retrouver. Si vous avez des trucs et astuces, je suis encore preneuse. Je vais tout prendre ce qui passe comme truc, là, honnêtement. Là. J'en arrache. Ça fait une semaine que j'attends qu'elle revienne à 100%, mais je peux encore remplacer certains chanteurs rock dans des bandes. Si jamais il y a problématique, là, mon grain de voix est encore adapté à eux. J'espère que, justement, c'est un bon vendredi pour vous. Le 7 juin, déjà, ça va vite, ça passe vite. Aujourd'hui, on va aller dans un endroit peu fréquenté. Ça veut dire dans quelque chose qui est rarement abordé. Mais il y a tout ce qui se trame autour des voyages humanitaires avec les jeunes. Puis il y a des jeunes qui s'en vont un peu partout dans le monde pour justement vivre une expérience qui est particulière, qui est différente, qui est aidante en fait pour la société. Et il y a une jeune fille qui va venir nous voir pour nous parler de son dernier voyage à Cuba. Voyage humanitaire organisé dans lequel elle a vraiment participé à l'activité sociale et, disons-le, économique de Cuba, dans un contexte qui est très, très particulier, où vous-même, vous voyagez moins parce que, justement, tout ce qui est livraison de nourriture ou encore de couverture, eau potable, etc., c'est difficile. On va faire une revue, en fait, de ce qu'elle a vécu. Dans quelques instants, on va pouvoir l'accueillir. Vraiment contente d'avoir cette entrevue-là ce matin. C'est le temps de l'heure CV. Il est 10h04. On est une heure ensemble. Si ça vous tente de vous brancher, bien, c'est au twitch.tv/BLVD/FM. Pour les prévisions météo, ouais, c'est difficile aujourd'hui, je vous le disais, 20 degrés comme maximum, des averses parfois fortes aussi sur le territoire de la capitale nationale, risque d'orage aussi pour toute la journée. Demain, samedi, toujours des averses avec 19 degrés. Dimanche, des averses, lundi, des averses. Finalement, on retrouve le soleil seulement mardi prochain, si je regarde au radar, mais ça peut toujours changer. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, quand même 20 mm de pluie qui sont attendus et demain, on est autour de 30. Il faut faire avec. Mais on a de la bonne musique à Boulevard 101, c'est vendredi et toute l'équipe est bien en place. Les vulgaires machins avec Obsolète dans vos oreilles, on vient.
Comme ceux de votre maman, à la présentation alléchante chez Henri et compagnie.com.
It's time! Leur CV avec Pascal CV.
On est de retour à l'émission. Faut que je vous dise que c'est de la pluie dehors. L'aviez-vous vu? L'aviez-vous senti? Ouais, mais on va prendre le positif là-dedans. J'ai l'impression que, au moins, si vous avez emmagasiné de la chaleur dans votre chez vous, vous allez pouvoir ouvrir les fenêtres un peu aujourd'hui, faire entrer une petite brise d'air frais pour rafraîchir à l'intérieur. J'ai devant moi deux femmes qui sont en studio et j'avais vraiment hâte d'avoir cette discussion-là. Ça fait longtemps que j'en parle avec nul autre que Sylvain Dancause, notre chroniqueur en éducation. Vous le savez, il vient de façon assez régulière à l'émission, et il m'avait parlé de ces deux femmes-là, comme quoi elles partaient faire un voyage humanitaire, social, du côté de Cuba. Cuba, pour vous, ça vous dit quoi? Probablement un tout inclus, probablement un endroit où vous vous faites dire maintenant, ben allez pas là, parce que ben un 3 étoiles, finalement, c'en est une étoile. Un 5 étoiles, finalement, c'est un 3 étoiles. Et où vous n'allez pas manger, apporter vos condiments. Puis là, on met ça un peu à la légère. Finalement, on y va, puis on se rend compte qu'on avait vraiment besoin d'apporter notre nourriture pour plusieurs raisons. La dernière fois que j'ai parlé avec une de mes amies qui est allée, elle pêche finalement, fait que sous l'eau, elle a été capable d'aller pêcher son poisson pour s'alimenter et autres, mais rappelez-vous, là, elle était en tout inclus. Malgré tout, il a fallu qu'elle prenne ces dispositions-là. Et il n'y avait pas de drap, parce qu'on n'avait pas été capable de faire du lavage cette fois-là. Pensez-y, là, dans un tout inclus, c'est ce qu'on offre aux clients. Et là, je dis pas, oh mon Dieu, on n'est pas chanceux, voyons donc, calvaire de touristes. C'est pas ça que je dis. C'est que si on se met à y réfléchir, s'ils sont pas capables de faire du lavage dans un tout inclus, imaginez leurs conditions au quotidien à ces gens-là, socialement, économiquement. Puis c'est la conversation que j'avais envie d'avoir avec les deux femmes qui sont devant moi. Je vais bien les présenter. Il y a Marik Andrews en secondaire 5 qui est partie faire un beau voyage humanitaire et qui est revenue justement de Cuba. Salut Marie.
Allô.
Ça va bien?
Oui, toi.
Oui, merci. Et également, ben, je pense qu'il faut le dire parce que par le nom de famille, on va être capable de savoir que c'est peut-être la maman, mais c'est aussi une enseignante, Kim Andrews, qui est enseignante à la polyvalente de Charlebourg, qui revient aussi de ce voyage culturel et d'initiation à la solidarité internationale à Cuba. Bonjour.
Allô, allô.
Merci d'être avec moi ce matin, les filles. Je pense que ça va être une belle discussion, un peu champ gauche, parce que c'est pas relié sur l'actualité, mais c'est relié sur quelque chose quand même qui se passe à chaque jour du côté de Cuba, qui nous concerne quand même en tant que Québécois, parce que c'est une destination qui a été longtemps prisée. Et maintenant, on appelle des gens de la capitale nationale pour venir vivre une expérience qui est tout autre. Comment ça a commencé, ce voyage-là, ou ce choix-là d'aller du côté de Cuba?
Bien, en fait, ça fait plusieurs années, nous, à la polyvalente de Charlebourg, au programme au PEI. Dans le fond, on voulait faire un voyage de ce genre-là. Puis, on avait choisi, il y a quelques années, Cuba pour la sécurité, question de vaccin et tout ça. Puis, finalement, la COVID est arrivée. Donc, on a repoussé le projet, sauf que là, on a pu le vivre. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'ai pas fait partie de l'organisation en tant que telle. C'est vraiment Señorita Pamela, l'enseignante en espagnol, là, qui a chapeauté ça là, avec les élèves. Et évidemment, il y a une agence de voyage qui nous aide, là, qui fait ce genre de voyage-là. Les élèves se sont inscrits volontairement. On avait 25 jeunes avec nous. Moi, je n'étais pas supposée accompagner. J'ai remplacé une collègue. Et puis, en quelques jours, là, j'ai fait mes bagages, là, accompagnée de ma fille qui avait tout suivi la formation. Parce que la formation, il y en avait eu.
Comprendre oui. La société là-bas, la communauté, comment ça fonctionnait, pour ne pas avoir un trop grand choc.
Exactement. Préparer les élèves à, justement, qu'est-ce qu'ils allaient voir, ne pas avoir de jugement, comprendre qu'est-ce qu'ils allaient vivre aussi. Donc, on partait probablement tout le monde avec une petite frousse ou une petite peur, qui finalement, avec les Cubains qui sont si chaleureux, si contents, heureux, notre guide cubaine Lourdes là-bas était extraordinaire, que ça nous a vraiment permis d'apprécier le voyage, là, malgré qu'on avait peut-être des petites craintes au départ. Mais pour la préparation, peut-être c'est plus Maric qui pourrait en parler, parce que moi, j'ai pas fait partie du processus.
Maric, toi, quand on parle de préparation, de quoi tu te rappelles dans tout ça? Parce que c'est sûr que tu as vécu ce voyage-là maintenant. Donc, tu as pu faire tes propres expériences, tes propres réflexions par rapport à ça. Mais est-ce que tu te souviens à quel état d'esprit tu étais avant de quitter?
Oui, vraiment. J'étais vraiment pas stressée tant que ça. J'avais juste tellement hâte que j'oubliais comme le stress, la différence qu'il allait avoir là-bas. J'avais juste vraiment hâte de me lancer dans ce voyage-là. Nous, on a eu une formation en mars, vraiment toute la journée, avec Aro Voyage, qui était la compagnie de voyage qui était avec nous. Puis, ils nous ont vraiment formés, comme, mettons, si on avait un choc culturel là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment pas stressée, j'étais dans un bon état d'esprit, j'avais juste hâte d'arriver à Cuba puis de rencontrer mes amis cubains.
Parce que là, vous étiez loin d'être en tout inclus, malgré tout ce que j'ai expliqué par rapport au tout inclus, qui est un petit peu moins glorieux, luxueux que ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Vous habitiez chez des gens, finalement, ou dans un endroit où tout le monde était rapatrié?
En fait, on habitait à l'ANAP, ça, c'est l'Association nationale des petits agriculteurs. Donc, eux, ils ont comme deux bâtiments où c'est des chambres d'hôtel. On était dans un village qui s'appelle Guira de Melena. C'est pas sur le bord de la plage, c'est vraiment au centre, dans la partie la plus mince de l'île de Cuba. Et non, ce n'était vraiment pas un tout inclus, bien que nous avons mangé vraiment plus qu'à notre faim. Même si c'était répétitif ce qu'on mangeait, vraiment, on a été impressionnés. Les fruits tropicaux, tout ça, là, c'était vraiment des beaux jus le matin.
Mais faisons un effort supplémentaire, fort probablement, parce que vous étiez...
Puis il était tellement fier. Ouais. Ah, il était fier de nous servir ça. Puis on voyait même la cueillette de certains fruits, que je ne me rappelle pas du nom, dans l'arbre. Il était grimpé, il faisait tomber les fruits. Le lendemain, on avait ce jus de fruits-là.
Avez-vous l'impression qu'ils vous ont gâté plus qu'eux-mêmes? Qui vous ont donné plus à vous qu'à eux et leur famille cette semaine-là?
Tout à fait, tout à fait, oui. Puis, faut dire que, je ne sais pas si, Maric, toi, ça t'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que tu es dépendant de l'électricité. Et comme il n'y a pas d'électricité 24 heures sur 24 pour tous, sauf évidemment dans les tout-inclus, là, on avait l'électricité 8 heures par jour, mais on ne savait jamais à quelle heure que ça allait arriver, revenir. Et ça, pour pomper l'eau dans les réservoirs, pour qu'on puisse avoir de l'eau dans notre toilette, ben, il fallait l'électricité pour remplir, parce qu'il y avait une piscine sur place. Elle était vide, puis elle remplissait pour que nous, on puisse se baigner. Alors là, on avait nos jumeaux cubains qui venaient un peu faire la fête, cours de danse, etc., cours d'espagnol, français, parce qu'on a vu vraiment un jumelage, là, un Québécois pour... deux Québécois pour un Cubain, c'est ça? Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est sûr que nous, ils étaient vraiment fiers de s'occuper de nous à la place où on habitait.
Qu'est-ce que vous avez redonné à cette communauté-là quand vous êtes allés?
Nous, en fond, nous, on était formés à l'agriculture. Donc, on a travaillé sur la ferme 3 jours, 3 matins. Vraiment, les Cubains nous ont formés à travailler dans les champs où on a ramassé aussi les feuilles pour qu'ils puissent faire du compost, parce que là-bas, c'est une ferme biologique. Puis là-bas, il y avait une chambre, la chambre numéro 2, je me rappelle très bien. On allait donner tous nos dons là-bas. Fait qu'on avait donné plein de dons. À la fin, la chambre était remplie. On voyait quasiment plus le plancher de dons.
C'est quoi des dons importants pour eux? C'est des vêtements, des souliers?
Il manque de pantalons de garçons là-bas. Aussi, papier de toilette. C'est plate à dire, mais vraiment, là-bas, il n'y a pas de papier de toilette pour les Cubains. Il fallait amener notre propre papier de toilette là-bas. Fait que papier de toilette, c'est important. Dentifrice, brosse à dents, tous les trucs d'hygiène. Ouais, la base. Vraiment, la base, c'est le plus important, ouais.
Vous avez rempli une chambre complète de dons.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous avez senti, peut-être qu'il était bon pour des jeunes, de constater, en fait, sur place, la grande différence de vivre puis la grande chance qu'ils ont, en fait, d'être au Québec, d'être nés ici?
Bien, dans les faits, dans le programme, puis je pense que tout le monde peut essayer de vivre ça dans sa vie, mais au PEI, tu veux développer des qualités comme l'altruisme, puis comprendre aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ta ville ou de ton propre pays, disons-le, comme ça. Puis moi, je pense que nos 25 jeunes sont revenus avec un bagage. Ils ont peut-être développé des réflexions sur le fait que je suis chanceux, moi, j'ai ça ici, puis lui, là-bas, non, il n'y avait pas ça, sauf qu'il n'y a pas l'air d'en souffrir, ciboulette.
Vous avez une leçon de bonheur, là,
à tout
Cuba.
À fait. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment, là, je ne sais pas trop comment exprimer ça. Je ne sais pas si toi, tu peux, en tant que jeune, mettre des mots sur ce que je veux dire. Mais pour moi, à l'issue du voyage, à la fin, quand je suis revenue, non seulement j'étais contente que tout se soit bien passé, même si on a dû aller deux fois dans des cliniques médicales, mais on a passé tout de suite. Ça a pris 15 minutes. Les enfants avaient soigné les petits bobos. On est ressortis. Tu sais, c'est ça, Cuba aussi. Là, c'est vraiment, c'est des gens instruits, puis ça roule. Là. Mais je suis revenue avec un sentiment d'accomplissement, puis je pense que Mme Pamela aussi, en disant « Hey, on a fait vivre cette expérience-là à nos jeunes, c'est incroyable, c'est incroyable. J'espère que maintenant, quand ils vont faire couler l'eau pour se brosser les dents ou peu importe, là, plein de petits détails dans la vie quotidienne, là, de se dire « Ah ouais, chanceux, moi, d'avoir ça. »
Ils vont être conscients de
comprendre comment ça se passe ailleurs.
Et pour les Cubains, c'est difficile, en fait, de... La leçon de bonheur que j'entends de ça, c'est dans le comparatif. Ils peuvent pas se comparer. Ils vous voient arriver, ils comprennent pas votre réalité parce qu'ils ont pas voyagé ici. Ils voient peut-être que vous avez un peu plus qu'eux, matériellement parlant. Mais ils sont très heureux malgré tout, malgré la situation où, justement, le papier de toilette, c'est même pas quelque chose qui est accessible là, au quotidien quand nous, on se pose même pas la question, là.
C'est ça.
Ils sont heureux sans le comparatif.
C'est ça. Puis le jumelage, je pense que nos jeunes, à nous, nos Québécois, attendaient beaucoup le jumelage avec les Cubains. Et donc, quand on est allé visiter l'école, ils se sont tout de suite... Là, on s'est rencontrés. Bonjour, bonjour. Moi, je comprenais absolument rien. Mais eux autres sont allés tout de suite jouer au soccer ou au volleyball dans la cour intérieure de l'école. Puis là, c'était la joie. Puis nous, on était là, les adultes. C'est vraiment beau de voir ça, là, ils se connaissent pas. Puis à chaque fois qu'on se revoyait, parce qu'on passait pas 24 heures sur 24 avec eux, je pense que ça, c'était le highlight de nos jeunes, de nos élèves de secondaire 4-5, là, de la polyvalente de Charlebourg. Ah, j'ai hâte de voir les Cubains, j'ai hâte de parler avec les Cubains, j'ai hâte de jouer avec les Cubains, j'ai hâte de danser avec les Cubains. Puis ils étaient très entreprenants dans le sens qu'il n'y avait pas de temps mort, là. Il était vraiment content. Puis ça faisait que c'était contagieux. Je ne sais pas si c'était ça ton moment préféré, toi, Maric?
Rencontrer, ouais, les Cubains, être avec eux. Puis même en ce moment, je m'ennuie d'eux. Des fois, je deviens émotive parce que j'ai tellement aimé ces moments-là passer avec eux. C'était vraiment des bons amis. On est encore en contact, d'ailleurs. On se parle encore. Parce
comment?
Que c'est, dans le fond, eux, ils n'ont pas accès tant que ça aux réseaux sociaux. Ils ont WhatsApp, mais je pense qu'ils peuvent mettre un VPN ou quelque chose. Fait qu'ils ont quand même accès à Instagram. On a un groupe Instagram et un groupe WhatsApp avec les Cubains. Puis on se contacte comme ça. Puis c'est vraiment fun de garder contact avec
eux. Il y a des parents qui nous écoutent, qui vont parler avec leurs jeunes, qui vont peut-être avoir cette opportunité-là de faire un voyage culturel, de faire un voyage social. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces parents-là qui sont à l'écoute, qui hésitent peut-être à envoyer leurs enfants? Parce que là, c'est sûr que toi, tu es allée avec ta mère parce qu'elle est enseignante à la polyvalente et autres, mais il y a peut-être des parents qui sont inquiets de ça. Qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre?
Allez-y, vraiment, moi... J'ai tellement plus de gratitude depuis que je suis revenue de ce voyage-là, de tout ce que j'ai dans ma vie. J'ai tellement vécu un bon moment là-bas. On sort vraiment de notre zone de confort aussi. C'était vraiment fun. On a la danse avec les Cubains, les activités, comme Las Terrazas. On est allé voir une chute, se baigner dans la source d'eau. Moi, je le conseillerais à n'importe qui, vraiment. Là, même si on a de l'anxiété, on est plus stressé dans la vie, ça va permettre vraiment de voir une autre réalité et même de diminuer le stress. Pour moi, ça l'a fait ça. Mmh. Je suis quand même quelqu'un d'anxieuse. Puis, en sortant de ma zone de confort, en voyant une situation comme celle à Cuba, je suis revenue ici avec une zénitude en moi que j'avais pas à propos de l'école, à propos de la vie en général.
Par le rythme de vie qui était différent?
Oui, vraiment.
Était plus
lent.
Plus chaleureux?
Oui, plus lent, plus chaleureux. Donc, je me sens vraiment plus même comme ça maintenant. Par rapport à l'école, surtout. Donc,
par rapport à l'école et la vie en général. Mm-hmm. Hey, merci beaucoup d'être passée, Marick Andrews en secondaire 5 et Kim Andrews, enseignante aussi à la polyvalente de Charlebourg. Vous revenez d'un voyage culturel et d'initiation à la solidarité internationale à Cuba. C'était le fun de vous recevoir, que vous pouvez contaminer peut-être un peu de gens qui sont à l'écoute, de voyager autrement que dans le tout inclus, mais de surtout aller connecter avec des communautés. Je vous souhaite un excellent vendredi.
Merci.
Puis,
merci.
J'espère que ça vous a influencé un peu à réfléchir à avoir des opportunités comme ça dans votre vie, mais également de permettre à vos enfants d'aller vivre ça s'il y a des voyages qui sont organisés du côté de leur école. Mordicus, les dieux l'ont choisi à Boulevard 102.1. Vous en avez parlé comme étant d'anciens touristes du côté de Cuba, à quel point vous aviez manqué de choses complètement de base, mais pour des raisons que vous comprenez aussi avec la communauté là-bas qui n'a pas d'accès en fait à tout ce qui est cargaison, import-export, très difficile, toujours en fait légiférer d'une manière qu'on ne souhaiterait pas nous vivre avec, là. Mais Cuba qui fait réagir de toutes les manières à travers les dernières années, qui n'est plus un endroit de prédilection pour des voyageurs. Mais quand on se met à creuser, finalement, puis à parler avec des gens qui ont eu accès à la communauté, on se rend compte que c'est là, en fait, la petite perle de Cuba. C'est dans ses citoyens, c'est dans ses éducations, en fait, qui sont particulières à chacun d'entre eux, en fait. On sait que le médical, la dentisterie là-bas est très développée. Il y a même des Québécois qui s'y rendent pour avoir certains traitements, mais effectivement que pour tout ce qui est besoin de base, autant matériel que personnel, là, c'est un petit peu plus compliqué. Dans l'actualité, il faut dire que Marc-André Grenon est revenu. Et ça, c'est quand même une grosse nouvelle. C'est lui qui a été condamné pour le meurtre de Guylaine Potvin. Il a reconnu avoir frappé une deuxième fois en 2000. Donc, il a plaidé coupable à une accusation de tentative de meurtre pour un événement qui est arrivé à Québec 2 mois après celui de Guylaine Potvin en 2000. Ça vient de sortir, en fait, ce matin. Il a été rattrapé par la justice, rappelez-vous, 24 ans après son meurtre crapuleux. Il a reconnu sa culpabilité à une accusation de tentative de meurtre pour un deuxième dossier en juillet 2000, ici, à Québec. Ça vient de se faire ce matin. Un dossier qui, comme celui de la mort de l'étudiante qui était survenue à Jonquière en avril 2000, était resté sans réponse jusqu'à temps que certaines avancées techniques nous permettent de relier ces événements-là à Marc-André Grenon. Rappelez-vous, c'est avec tout ce qui se passe du côté de la génétique, de l'ADN, les genres de banques de données que vous-même, en fait, vous alimentez, là, puis si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est une chose, mais si votre cousin a quelque chose à se reprocher, ça peut jouer quand même contre lui. Tous les Q-tips là, qu'on se passe pour aller chercher un peu d'ADN, pour savoir d'où on vient, nos ancêtres sont de quel pays, un peu connaître notre histoire, bien ça, c'est accessible aux policiers et c'est de l'ADN pur. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a réussi à remonter à Marc-André Grenon. On avait déjà une banque d'ADN par rapport à ce meurtre-là et on a été capable de la relier à lui. Des fois, il suffit d'une personne qui a passé le test, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir remonter à vous. Mais un homme de 49 ans, donc Marc-André Grenon, qui a reconnu ce matin avoir tenté de tuer une jeune étudiante de l'Université Laval dans la nuit du 3 juillet 2000, après s'être introduit par infraction chez elle. C'est le même modus operandi qu'il avait utilisé du côté de Jonquière quelques mois plus tôt dans ces années-là. Il est entré dans l'appartement de la jeune femme de 20 ans. Elle dormait dans son lit. Il l'a étranglé jusqu'à temps qu'elle perde conscience. Il l'a laissée pour morte dans sa chambre et la victime s'est réveillée plus tard, tombée entre son lit et le mur, incapable d'identifier son agresseur. Il y a eu des prélèvements qui ont permis de prélever justement l'ADN de cet assaillant-là, qui était Marc-André Grenon, et ça a été fait sous ses ongles. Jamais il y a une facilité qui avait permis en fait de relier à cet homme-là, mais la Banque nationale des données génétiques l'a permis quelques années plus tard. Et là, c'était la seule correspondance qu'il y avait avec un profil génétique qui avait été prélevé sur la scène du meurtre de Kylian Potvin, qui est confirmé aux enquêteurs qu'il avait affaire à un seul et même assaillant. Mais ça a pris 22 ans avant de pouvoir l'identifier. 22 ans où il a vaqué à ses occupations, vécu sa vie, fait ses affaires. Et on a expliqué de long en large dans ce procès-là, dans le procès de Grenon pour meurtre au premier degré qui s'est déroulé là, en janvier-février dernier, le projet patronyme. Ça, c'est basé sur la généalogie. Donc, ça a aidé à résoudre d'autres crimes qui n'avaient pas été résolus jusqu'à maintenant. Et pour Grenon, il a été identifié grâce à son nom de famille, oui, mais il a été placé sous filature par des enquêteurs de la Sûreté du Québec en août 2022. Donc, les autorités ont pu récupérer l'ADN de cet homme-là dans un cinéma de Granby. Il a jeté un verre de liqueur dans une poubelle de l'établissement. Ils sont allés le chercher et on était capable de gratouiller pour être en mesure d'aller prendre son ADN, là. Initialement, il avait été accusé de tentative de meurtre et d'agression sexuelle grave dans le dossier de Québec. Il a plaidé coupable aujourd'hui au premier chef, tandis que le deuxième a été modifié pour introduction par effraction dans un dessein criminel et d'y avoir commis des actes criminels aussi. Bon, à la suite de tout ça, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu suggestion commune entre les deux parties. Là, le délinquant a été condamné à une peine de détention de 15 ans pour cette tentative de meurtre-là et introduction par effraction en juillet 2000. Ça sera purgé de façon concurrente à toute autre peine et il a été déclaré coupable par un jury en février dernier, je vous rappelle, pour le meurtre au premier degré et l'agression sexuelle grave de Guylaine Potvin, 19 ans, rappelez-vous, le 28 avril 2000 à Jonquière. Alors, il avait été condamné pour cette peine de prison-là à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Puis, il y aura plus de détails à venir, mais quand même, ça s'ajoute à cet individu-là. Ça, Yannick Marceau en avait parlé. Il y avait eu certaines informations comme quoi, du côté de la Traverse Québec-Lévis. Ça se passait plus ou moins bien. Il y a grève maintenant à la Traverse Québec-Lévis et ce sera effectif en plein Festival d'été de Québec. Je me souviens qu'il y avait certaines rumeurs l'an dernier par rapport à ça. Ça avait été plutôt des menaces. Finalement, cette année, ça va être effectif. Donc, les traversées de Québec et de Lévis seront clouées au quai pendant le Festival d'été de Québec. On est en négociation pour une nouvelle convention collective. Le syndicat a décidé de débrayer là, du 5 au 15 juillet prochain. Et les syndicats qui représentent les employés de cette traverse-là, ainsi que la traverse Matane, Bécomo, Godbout, ont donné des avis de grève au ministère du Travail. Ça s'est fait ce matin. On déclenche 3 séquences de grève au mois de juillet. Il y a des négociations qui piétinent, là. Ça avance pas. Donc, c'est pour ça que les employés ont décidé d'aller de l'avant avec quand même une bonne manifestation, là. Ça, c'est se faire entendre, c'est se faire sentir aussi parce que, vous le savez, pendant le Festival d'été de Québec, tout ce qui est transport en commun est extrêmement utilisé, plus que n'importe quand dans l'année. Et cette traverse-là sera interrompue par la grève du 5 au 15 juillet prochain. Moment critique, le festival, c'est du 4 juillet au 14, donc ça sera quand même certainement quelque chose qui va faire suer quelques utilisateurs. Mettez ça à votre calendrier. Et celle, la traverse, qui concerne Matane, Bécomo, Godbout, bien, il y aura une grève aussi, mais ça va se faire en deux temps. Donc, les dates sont du 22 au 26 juillet prochain pour les salariés à terre, puis du 29 juillet au 2 août pour les salariés qui sont sur le navire. En mai, il y a les 3 syndicats qui avaient adopté une banque illimitée de jours de grève là, à exercer au moment opportun. Puis on a choisi un moment où ça va assurément, malheureusement, avoir des impacts négatifs dans votre vie. François Legault est à la une aussi du Journal de Québec. On va annoncer la création d'une commission sur l'autonomie du Québec. Et ça sera présidé par Sébastien Proulx et Guillaume Rousseau. Donc, annonce qui a été faite. Le premier ministre François Legault l'a annoncé aujourd'hui, là, cette création d'un groupe d'experts qui veut accroître l'autonomie du Québec à l'intérieur l'extérieur du Canada. Quand même fascinant. Hein? On revient beaucoup avec les vieilles idées d'un Québec indépendant, d'un Québec autonome. Il y a peut-être Paul Saint-Pierre-Plamondon qui va être content d'entendre ça, mais le bureau parlementaire a confirmé ces informations-là. D'abord, ça a été rapporté par Le Devoir là, ce matin, mais quand même, on vient de le faire écrire par tous les journalistes de tous les journaux que l'on connaît. La commission sera co-présidée, comme je vous disais, par l'ex-ministre libéral. Lui était député, rappelez-vous, là, adéquiste Sébastien Proulx, dans le temps. Peut-être que c'est là où il y a eu certaines cliques qui se sont formées et les gens qui se sont parlé. Mais il y aura Sébastien Proulx et le professeur de droit Guillaume Rousseau, qui est également un ex-candidat péquiste. L'ex-chef de cabinet de René Lévesque et ancienne sous-ministre Martine Tremblay va siéger aussi sur le comité, tout comme le fiscaliste Luc Godbout. C'est quoi le mandat de cette gang-là, en fait, sur l'autonomie du Québec à l'intérieur du Canada? En fait, ils vont avoir 5 mois pour remettre un rapport. Depuis des années, la CAQ a réclamé beaucoup de pouvoirs supplémentaires du côté d'Ottawa, entre autres sur le contrôle de l'immigration, le droit de retrait des programmes fédéraux, puis la pleine compensation, pardon. Et là, on va avoir une nouvelle approche. On veut prendre un petit peu plus de pouvoir face au pays. On a échoué dans certaines négociations. Et là, on veut agir de façon unilatérale. On ne veut pas avoir à attendre l'accord du fédéral, comme entre autres dans l'adoption de la réforme de la Charte de la langue française. Donc, on veut un petit peu plus de possibilités de ce côté-là. Et il y aura Justin Trudeau à Québec la semaine prochaine qui va venir faire justement un petit tour. Puis, entre autres, l'immigration sera un des points chauds, un des enjeux qui sera abordé entre François Legault et Justin Trudeau. Donc, c'est sûr que ça va le faire réagir. Là. C'est impossible de passer à côté d'une nouvelle comme celle-ci. Il y a assurément quelque chose qui se trame du côté d'une indépendance, en fait, du Québec, même au sein de la CAQ. C'est ça qui est forcément intéressant de voir. Peut-être que c'est pas quelque chose qui va nous rejoindre côté politique, mais il y a assurément le passé de François Legault qui surgit en ce moment en politique. Je peux terminer avec une petite, nouvelle qui nous concerne tous, fans de À vélo dans la ville de Québec. On a écrit sur nous du côté de Radio-Canada et on dit que le port du casque est banalisé sur les vélos électriques à Québec. Donc, bien que l'engouement soit croissant du côté des pistes cyclables avec les vélos électriques, on insiste sur le fait qu'on doit porter le casque et qu'il y a des règles de sécurité. Il y a des policiers de l'unité jeunesse et prévention du SPVQ qui ont commencé à faire des patrouilles à vélo pour la saison estivale et qui demandent justement d'être très vigilant et de traîner son casque si jamais vous prenez ces vélos électriques-là. Sachez-le, il n'y a pas de vélo en état d'ébriété et il n'y a pas de vélo sans casque. Les policiers vous le rappellent. Le stéréo, Sam and the Terrible News à Boulevard 102.1. Je dois le mentionner parce que là, il y a un avertissement, puis ça me fait toujours rire de voir avertissement de pluie. Auparavant, quand on consultait Environnement Canada, il n'y avait pas ce genre de bandeau-là, mais la pluie va être forte aujourd'hui. Ça a commencé, en fait, cette nuit, puis on attend près de 50 mm de pluie jusqu'à samedi. Ça veut dire dans les prochaines heures. Et les quantités peuvent dépasser les 50 mm, en fait, sous certains orages, là, en quelques heures, surtout quand on a un terrain qui est élevé. C'est des pluies torrentielles qui vont pouvoir causer des crues et des crues soudaines aussi, là. Une accumulation d'eau sur les routes, ça fait des ravages aussi. Donc, avertissement important pour le secteur de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, tout le Québec au complet, Valcartier, Stoneham, Portneuf. Ça va être un moment où il va falloir être vigilant sur nos réseaux routiers. Déjà ce matin, certaines roulières qui étaient pleines d'eau, qui font en sorte que les gens ne circulent pas nécessairement au bon endroit là, sur la route. Puis il faut s'adapter à ces personnes-là. Puis on comprend, en fait, ils veulent juste éviter de faire de l'aquaplanage, mais ça ramasse dans la voie inverse. Donc là, et la complexité. Soyez prudents aujourd'hui. Oui, c'est des averses parfois forte qu'on attend. 20 degrés comme maximum. On est à 15 en ce moment, puis risque d'orage aussi. Ce soir et cette nuit, même scénario. Demain, samedi, même scénario. Dimanche, pas d'orage au radar, mais quand même de la pluie. Même chose pour lundi prochain. Ça reste assez chaud, mais ça reste des températures qui n'auront pas qui n'auront pas ce qu'on avait le week-end dernier. Là, je sais qu'on en a profité en masse avec le soleil, mais là, c'est pas du tout le cas pour ce week-end-ci. Alors, on va faire ce qu'on doit faire, soit se reposer. Je pense que ça va être un peu le plan pour tout le monde. C'est triste pareil parce qu'en fin de semaine, il y avait toute la vente de garage du côté de Limoilou, là, avec les résidents qui sortent avec leur table. Puis finalement, ça devient un party. Il y a de la musique sur place, il y a des rencontres à faire et tout. J'ai l'impression qu'il y a une couple d'activités qui vont tomber à l'eau, pour pas faire un mauvais jeu de mots. Mais il reste que demain. C'est les portes ouvertes dans les casernes de pompiers. Si ça vous intéresse d'aller là avec les enfants ou d'y aller simplement en tant qu'adulte curieux, c'est ouvert, c'est gratuit. Donc, toutes les casernes de la ville de Québec font des portes ouvertes en fin de semaine. Vous allez trouver votre compte dans celle qui est près de chez vous, c'est sûr. Puis, c'est une super belle activité. Vous allez pouvoir monter dans les camions et autres, là. Il y a toujours beaucoup de générosité de ce côté-là. Puis, les pompiers seront là pour vous faire visiter, en fait, ces casernes-là, qui sont essentielles dans notre belle communauté. 24 municipalités qui ont réclamé un troisième lien à l'Est. Le saviez-vous? C'est une sortie qui survient au moment où on va déposer la proposition pour un projet de transport structurant la semaine prochaine à Québec. Il y a plus d'une vingtaine de municipalités de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale qui ont décidé de faire front commun et qui réclament ce troisième lien-là à l'Est. Ils sont appuyés par 8 organisations économiques, des élus régionaux aussi qui ont mis sur pied la Coalition de l'Est pour faire pression sur le gouvernement Legault. Donc, on pose 3 conditions à un éventuel troisième lien. Le nouveau pont ou tunnel là, qui devrait être à l'est des centres-villes devrait permettre le transport des marchandises et faire l'objet d'un engagement ferme du gouvernement. C'est ce qu'on demande du côté de ces municipalités-là. On dit qu'il faut un bouclier et une façon de boucler la boucle sur le réseau routier. Il faut arrêter d'en parler, il faut passer à l'action. C'est ce que Martel Alain Vallière, qui est directeur général du développement économique de Bellechasse et maire de Saint-Vallier aussi. Et on dit que si on acceptait des dossiers en fonction de l'acceptabilité sociale, ça en serait un des bons dossiers, un des premiers dossiers à être réalisé au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 88-971-1021, mais là, on est assez, je veux dire, agressif, mais d'une manière positive. Pas de violence là-dedans, là, mais on a décidé de se mettre les deux mains dans le dossier. Même si le gouvernement du Québec a affiché un déficit record de 11 milliards de dollars cette année, on croit que malgré tout, on doit aller plus loin avec ce projet-là, qu'il est justement un projet essentiel pour restructurer la ville de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, 24 municipalités qui réclament ce troisième lien-là à l'Est et qui ont fait un point de presse à ce sujet-là dans les dernières heures. Puis, il y a quelque chose qui vous a fait jaser aussi dans les dernières heures, puis vous en avez parlé avant même que ça soit dans l'actualité. C'est peut-être comme ça que ça s'est rendu dans le Journal de Québec. Les passes du Festival d'été de Québec ont été volées. Il y a des gens qui, quand ils ont su, en fait, là, ces 10 voleurs, qui ont commencé à recevoir par la poste les passes du Festival d'été de Québec, ceux qui avaient des boîtes ouvertes, des boîtes postales, là, que finalement, c'est juste un petit paquet de métal dans lequel on glisse la poste, ont été pillés. Et il y a une bonne dizaine de clients qui ont mentionné au Journal de Québec, ça veut dire c'est ceux qui ont signalé cette infraction-là, mais il y en a beaucoup plus, ça veut dire, qui ont réussi à se faire voler des passes pour le Festival d'été de Québec, chose qui avait été très difficile à obtenir d'abord et avant tout. Et on a eu la surprise, finalement, du côté de certains citoyens de Québec, de voir que ça avait été volé, même si ça avait été livré par Poste Canada cette semaine. Il y a eu des envois massifs des laissez-passer du FEC qui ont commencé au courant des derniers jours et ça a été dérobé dans les boîtes postales, même que on dit que ça a été dérobé avant, des fois, d'être dans la boîte postale. Je ne sais pas comment ils ont réussi à savoir ça, mais malgré tout, c'est ce qui est signalé dans le Journal de Québec. Il y a un certain René Hamel, qui est citoyen des Chambeaux, qui avait acheté une passe signature au montant de 640 $ Et cette semaine, il y a une factrice de Poste Canada qui a livré un colis là, qui devait contenir son achat. Puis finalement, dans sa boîte, il y avait un petit sachet de plastique de Poste Canada qui présentait des excuses pour le colis endommagé. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avant même que ça soit livré, justement, quelqu'un avait ouvert la boîte et avait volé le contenu à l'intérieur. C'est fou, là. Hier, on jasait ensemble, vous et moi, sur la possibilité peut-être d'augmenter les prix pour les passes du Festival d'été de Québec parce que, justement, ça fait en sorte que peut-être que on souhaite en avoir et par le prix qui est très alléchant, qui est très facile, tout le monde se garoche un peu là-dessus. Je sais pas si en les vendant plus cher, ça ferait en sorte qu'il y a des gens qui se décourageraient puis il y aurait un petit peu moins de personnes qui voudraient aller au Festival d'été de Québec. Mais est-ce que c'est la solution? Fort probablement que non. On n'avait jamais vu ça à travers les dernières années, là. Un engouement aussi fort que ça produit des vols de passes, là. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Le Festival d'été de Québec est rendu plus grand que lui-même. problème, en fait. C'est un beau et un mauvais problème en même temps. Mais voilà que des colis ont été ouverts par des gens dans des centres de distribution de ce qu'on comprend, en fait, qui se sont fait voler. Même événement qui s'est produit du côté de Stoneham. Martin Trudel qui a contacté le Journal de Québec, qui avait acheté 2 laissez-passer signature pour 1 300 $. Il a reçu un feuillet de Poste Canada qui indiquait d'aller chercher son colis au bureau de poste. Quand il est arrivé chez lui, il a commencé à ouvrir son colis, puis il voyait que le code QR, c'était juste pour enregistrer les passes, mais que le reste s'y trouvait pas. Donc, la boîte était emballée aussi avec un sachet de plastique de Poste Canada qui présentait des excuses pour le colis endommagé, mais il n'y avait plus la passe à l'intérieur. Est-ce que ça vous est arrivé? Parce que on en a jasé ici au bureau, puis il y a une personne aussi qui s'est fait voler, en fait, directement dans sa boîte postale, ses passes, mais cette fois-ci, c'était des passes régulières, là, si je peux le décrire comme ça, qui ont été dérobées. Je pense qu'on va en entendre parler un petit peu plus au courant des prochains jours, puis il y a encore de la revente sur Marketplace, mais bon. Festival d'été de Québec 2024, c'est quoi? C'est 145 000 passes en admission générale, 3 000 avant-scène or, 2 000 avant-scène argent, 2 000 signatures, 350 passes Jardin Air Canada et des têtes d'affiches comme 50 Cent, Motley Crue, Nickelback, Post Malone, Zac Brown Band, G Balvin. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte qu'il y a des petits sacripants, des coyotes puants qui décident de s'en procurer d'une manière qui est loin d'être légitime. Mais si vous avez subi un genre de vol comme ça, 88-971-1021 ou encore sur Twitch, on veut le savoir. On va en jaser un petit peu plus tard dans Marceau le midi. Hey, bon vendredi à tous. Merci d'avoir été là dans leur CV, justement. Marceau le midi, ça commence dans un instant. Yannick est en forme et Thomas Gauthier aussi. On se retrouve après les Cowboys fringants, l'Amérique pleure.